Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais commencer cette catéchèse en répondant à une question qui est arrivée hier par SMS sur comment comprendre le baptême d'eau, baptême dans le Saint-Esprit, baptême du feu, qu'est-ce que c'est que tous ces baptêmes, voilà. Alors, allons voir dans Saint Matthieu, chapitre 3, nous sommes au Jourdain avec Jean-Baptiste, qui appelle à la conversion. Alors les gens viennent se faire baptiser dans l'eau. C'est un baptême de repentir. Baptême d'eau, baptême de repentir. Baptême de Jean-Baptiste dans l'eau qui ne confère pas la grâce, mais par ce geste néanmoins que les gens font en faisant plouf-plouf, eh bien, ils se disposent le cœur et ils choisissent de se convertir pour être mieux disposés à celui qui viendra plus tard, baptisé dans l'Esprit Saint. Et dans l'Esprit Saint et le feu. Alors je vous lis le passage, chapitre 3 de Saint Matthieu, c'est Jean-Baptiste qui parle. « Pour moi, je vous baptise dans de l'eau, en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Alors, ce qu'il y a de merveilleux et d'un peu désarçonnant dans la parole de Dieu, c'est que c'est un peu comme, vous savez, un petit galet plat là, que vous jetez dans l'eau, puis ça fait des ricochets. Et de fait, il y a un accomplissement en Jésus, mais ça concerne aussi la fin des temps, l'aboutissement du temps. Avec Jésus, on est dans la plénitude du temps, quand, comme dit Galate, quand vint la plénitude des temps. Voilà, le Père envoya son Fils né d'une femme, etc. Mais ce que Jésus a déjà commencé, ce que Jésus rédempte, ce que Jésus sauve, c'est-à-dire chacun de nous, il y a aussi l'œuvre de celui qui vient dans la gloire, ce même Jésus, et qui va nettoyer son aire. Alors il a déjà commencé par la rédemption, par sa croix, sa résurrection, mais il y a aussi la réalité du jugement. Quand le Fils de l'homme vient, il vient juger, il vient purifier. De sorte qu'il y a comme... je pense que la meilleure image, c'est celle que je vous ai donnée pour faire comprendre. Quand Jésus vient... Jésus est celui que Jean-Baptiste annonce. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Nous avons vu ce que c'était que ce baptême dans l'Esprit Saint. Et puis nous allons parler du sacrement du baptême, on va voir tout ça. C'est le baptême, ce n'est plus un baptême d'eau comme celui de Jean-Baptiste, mais c'est un baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême du feu, c'est déjà un peu le sacrement du baptême, parce que le jugement a déjà commencé. Le démon a été vaincu, il est déjà jugé, dit Jésus, et puis ceux qui ont la foi échappent au jugement. Saint Paul 1 Corinthiens 6 nous dit « Vous vous êtes lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et alors celui qui croit qu'il est sauvé, celui qui a accueilli Jésus dans sa vie, comme sauveur, comme unique sauveur, et celui qui dit « Moi Seigneur Jésus, je veux vivre pour toi. Désormais ma vie c'est toi, je me donne à toi, je te reçois comme unique sauveur, et je veux vivre en ton nom, je veux vivre avec toi, par toi, en toi. » Celui-là, il échappe au jugement. L'accusateur de nos frères a été rejeté. Il est vaincu, le prince de ce monde. Mais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut, viendra un moment, et nous attendons ce moment avec hâte. Le Seigneur vient dans sa gloire, et quand il vient dans sa gloire, il va décaniller l'Antichrist, qui est l'Antéchrist, c'est-à-dire avant la venue de Jésus dans la gloire, il y a l'Antéchrist, l'Antichrist qui est déjà présent avec ses différents esprits et qui sera l'homme impie, qui va séduire beaucoup de monde. Et donc quand le Christ, le Messie, Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, vrai Dieu, vrai homme, unique sauveur, arrive dans la gloire, il va enchaîner Satan pendant les 1000 ans. Bon, le millénium. De sorte qu'il vient régner, et il y a là un jugement. Et c'est un jugement qui se fait un baptême dans le feu. Le feu, c'est quoi? C'est le feu de l'amour de Dieu qui brûle, bien sûr. C'est un feu qui purifie. Parce que on ne peut pas vivre avec le Christ en ayant encore des impuretés. Le feu brûle pour purifier, pour faire sortir l'or, pour qu'il y ait au terme de ce tamis, si vous voulez, eh bien plus que de l'or. De sorte que le Seigneur, par son feu d'amour, il vient non seulement illuminer les âmes, mais les purifier. Et le jugement, celui qui croit en moi échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Allez baptiser, annoncer l'évangile à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire qu'il va se condamner lui-même. Il y a donc devant le mystère de la venue de Jésus dans la chair, il y a 2000 ans, dans la gloire, bientôt, il y a toujours du côté de la créature un choix à poser. Soit nous l'accueillons avec joie et allégresse, avec humilité, et on laisse le Seigneur nous purifier, on laisse le Seigneur nous illuminer, et on dit, OK, moi, ma vie, c'est toi. Ou bien on se braque. Voilà le feu. Il y a donc un baptême d'eau, Jean-Baptiste. Il y a le baptême de Jésus, qui est le mystère de sa mort et de sa résurrection, qui nous sauve, qui nous baptise dans son esprit, qui, par le sacrement du baptême, nous allons le voir, est actualisé. On va le voir, donc on va prendre le temps pour ça. Et puis il y a le baptême de feu qui est déjà présent dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, mais qui prend toute son ampleur au moment de la venue de Jésus dans la gloire, car il y a un jugement. Voilà, pour répondre à la question de l'auditeur. Baptême dans le feu. Alors c'est magnifique, parce que de fait, je reviens sur le passage que je vous ai lu, de fait c'est un langage apocalyptique, c'est un langage, quand le Messie arrive, le Messie attendu par les Juifs, quand notre Jésus, que nous aimons, que nous connaissons, vient dans la gloire. De fait, ce que Jean-Baptiste est en train de dire, ça concerne la fin des temps. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. On pense à la moisson. Ah oui. Avec les anges de Dieu, à la fin des temps, eh ben, ils font la moisson. Il recueille le blé. Rappelez-vous la parabole de l'ivraie et du bon grain dans le grenier. Et quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas de Dieu, ça dégage. Ça brûle. Car quand le Christ vient régner ici-bas, eh bien, il n'y a plus de place pour l'impureté, c'est-à-dire pour les mélanges. Vous ne pouvez pas choisir Dieu et l'argent. C'est pas possible d'avoir les deux. Tu peux pas choisir ta vie. Tu peux pas te choisir toi-même. Tu peux pas t'ériger toi-même comme ton petit Dieu Et en même temps, en ayant un peu Jésus dans ta vie, non, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, et il n'y en a qu'un. Alors si tu veux bien, choisis le bon. Parce que si tu te choisis toi, ta volonté propre, tu seras très malheureux. Ce que nous disons là, bien sûr, d'un point de vue individuel, on peut tout à fait le dire d'un point de vue collectif. Alors, poursuivons. Je vais commenter avec vous les articles du catéchisme de l'Église catholique. Et le catéchisme nous dit l'importance de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons du baptême, la parole de Dieu a une place éminemment importante. Pourquoi? Parce que la foi naît de ce qu'on entend. Pour entendre la parole de Dieu, il faut des prédicateurs qui sont envoyés par le Seigneur pour qu'ils parlent au nom du Seigneur et pour que ce soit le Christ lui-même qui parle à travers eux. Et que ce soit le Christ lui-même qui touche les cœurs, suscite la foi, nourrisse la foi, aide les croyants à grandir dans la foi. Et ça passe par la parole de Dieu. Et bien sûr, lorsque nous nous faisons baptiser dans l'Église, eh bien, nous sommes plongés dans la foi de l'Église. La foi, c'est la réponse de l'homme à Dieu qui parle. Alors, pour avoir la foi, il faut entendre Dieu qui parle. Et du coup, voilà. Saint Pierre nous dit, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrés de nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible, deux points, la parole de Dieu vivante et permanente. Saint Paul nous dira aux Éphésiens 5, en nous parlant de l'homme, de la femme, du mariage, mari et femme. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Il y a donc dans le sacrement du baptême et dans les autres sacrements d'ailleurs, puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu rénove, restaure, fortifie, illumine, console. Et dans l'élément matériel qu'est l'eau, dans le sacrement du baptême, et bien par la puissance de la parole de Dieu, prononcée par le prêtre ou le diacre, ou on verra. Eh bien, celui qui est baptisé est immergé dans la vie de Dieu. Le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la parole du Dieu vivant. La proclamation de la parole est indispensable, nous dit le catéchisme, au ministère sacramentel, puisqu'il s'agit des sacrements de la foi et que celle-ci a besoin de la parole pour naître et se nourrir. Voyons maintenant la richesse invraisemblable, impressionnante du Saint Baptême à partir de la célébration. Parce que vous savez que nous, comme on dit dans le jargon, l'Église prit la loi de la prière et la loi de la foi, c'est-à-dire que les célébrations liturgiques dans l'Église sont expressives de notre foi. Et donc, lorsqu'on regarde le déroulement, si vous voulez, de la célébration, et là on va parler de la célébration du baptême, on voit, à travers des gestes, des paroles, des démarches, l'expression de notre foi. Devenir chrétien, nous dit le paragraphe 1229, cela se réalise dès les temps des apôtres par un cheminement et une initiation à plusieurs étapes. Ce chemin peut être parcouru rapidement ou lentement. Il devra toujours comporter quelques éléments essentiels, deux points, l'annonce de la parole, on l'a vu, l'accueil de l'évangile, entraînant une conversion. Pas possible d'être baptisé et puis de garder sa vie d'avant. Ça n'a aucun sens. La profession de foi, le baptême, l'effusion du Saint-Esprit, l'accès à la communion eucharistique. Cette initiation a beaucoup varié au cours des siècles et selon les circonstances, bien sûr. Au premier siècle de l'Église, l'initiation chrétienne a connu un grand déploiement avec une longue période de catéchuménat et une suite de rites préparatoires qui jalonnaient liturgiquement le chemin de la préparation catéchuménale et qui aboutissaient à la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne. Je n'entre pas dans les détails historiques et des diversités, des diverses manières de préparer au baptême, dans l'Église latine, dans l'Église orientale, etc., etc. Là où le baptême des enfants est devenu largement la forme habituelle de la célébration de ce sacrement, celle-ci est devenue un acte unique qui intègre de façon très abrégée les étapes préalables à l'initiation chrétienne. De par sa nature même, le baptême des enfants exige un catéchuménat post baptismal. Ben bien sûr, parce que les adultes, ils sont préparés avant le baptême. Ils sont grands, ils vont prendre des cours, ils sont catéchumènes, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils se préparent. Et les petits-enfants, que ce soit 1 jour, 1 mois ou 1 an, ils sont trop petits pour avoir une formation, bien sûr. Le baptême, de par sa nature même, le baptême des enfants, exige un catéchuménat post-baptismal. Je vais y revenir. Il ne s'agit pas seulement du besoin d'une instruction postérieure au baptême, mais de l'épanouissement nécessaire de la grâce baptismale dans la croissance de la personne. C'est le lieu propre du catéchisme. Pourquoi on envoie les enfants au catéchisme? Pourquoi est-ce qu'on fait le catéchisme aux enfants? Eh bien, c'est pour que ce trésor qu'ils ont reçu au jour de leur baptême, en pleurant un peu, eh bien, que pour que cette grâce inouïe, qui est déposée telle une graine dans de la terre, puisse grandir, pousser. Ce n'est pas pour retrouver les copains et les copines. C'est quelque chose de magnifique et de très profond. Nous allons le voir. Mais par le baptême, nous devenons membres du Christ, membres de son corps qu'est l'Église. Et l'enfant baptisé, le baptisé, entre dans une nouvelle famille. Il a non seulement sa famille naturelle, mais il entre dans une famille surnaturelle, la communauté de croyants. Et l'Église, communauté croyant, on est là pour nous édifier les uns les autres et pour grandir dans la foi, pour nous aider les uns les autres. Alors il y a besoin de connaître Dieu. Non pas simplement une connaissance intellectuelle, non pas simplement connaître l'histoire du salut, connaître la Bible. Ça c'est le béaba. Il faudrait que tous les enfants lisent la Bible, plutôt que de passer 3 heures par jour devant leur tablette à regarder des vidéos. Est-ce qu'ils lisent la Bible? Est-ce qu'ils connaissent leur histoire? Parce que la Bible, c'est notre histoire. C'est notre histoire sainte. Il faut qu'ils expérimentent, ces enfants, l'amour de Dieu. L'amour de papa, maman, cousin, cousine, tantine, tonton, frère, sœur, au milieu de quelques jalousies, c'est bien. Mais Dieu Père, l'amour de Jésus, la présence du Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant, l'amour de la Vierge Marie, connaissance minimum des sacrements, tout ça c'est indispensable. Et il relève de la responsabilité des parents chrétiens de se dire c'est un tel trésor que le baptême, la foi catholique, et que je vais, si je suis un bon papa, une bonne maman, je vais faire en sorte que ce trésor, mon enfant, bénéficie à fond pour qu'il grandisse dans la grâce, dans la sainteté. Car des parents chrétiens ne font pas simplement des enfants pour faire des enfants, mais font des enfants pour qu'ils deviennent saints. Les baptisants, ils regardent, ils contemplent ce que Dieu fait dans le cœur de leur enfant et ils aident, ils accompagnent la croissance spirituelle de leur enfant. La famille est le premier lieu, Ecclesia Domini, là, l'église domestique, où l'enfant doit croître dans la foi. Et puis il y a l'église, la communauté paroissiale, la communauté religieuse, bref, un groupe où il y a de l'amour qui circule, où il y a de l'amitié et en même temps une instruction. Parce que un chrétien, un petit chrétien, un petit enfant chrétien qui ne connaît pas sa foi, il va être balayé, massacré par l'esprit du monde, par les idéologies qui sont dans ce monde. Et dans les milieux qu'il va fréquenter, il va se faire polluer en permanence. Dès tout petit, à travers les livres, hein? Maintenant, c'est juste l'horreur, ce qu'on apprend aux enfants, sur la sexualité, sur ce que c'est qu'un homme, une femme. La théorie du genre, elle est partout, sur la bioéthique. Et on pense instruire les enfants? Non, on les pollue. C'est voulu. Je ne parle pas de la qualité de l'enseignement qui est donné, parce que là, depuis des dizaines d'années, là aussi c'est fait exprès, il faut que les gens ne soient de moins en moins instruits. Bon, alors vraiment, il faut se réveiller, les chrétiens. Il faut se réveiller. Parce que si vous aimez vos enfants, eh bien, donnez-leur de la bonne nourriture. Non seulement une éducation humaine qui se tient, mais une éducation chrétienne. Si l'enfant n'est pas greffé vitalement sur Jésus, il va être balayé. Vous voulez quoi pour vos enfants? Que ce soit des colonnes vertébrales? Ou des mollusques. De par sa nature même, le baptême des enfants exige un catéchuménat post-baptismal. Il faut que les enfants apprennent, intègrent leur foi. Qui est Dieu? Et que ce Dieu n'est pas un concept, mais une personne vivante, trois personnes plus précisément, que ce Dieu les aime, les accompagne. Il faut qu'ils apprennent à prier. C'est si triste de voir les enfants baptisés qui ne prient pas, comme des adultes d'ailleurs. Mais bon, on parle là en ce moment des enfants. Connaissent pas le Notre Père, connaissent pas le Je vous salue Marie, le Credo, n'en parlons pas. Ils ne parlent pas à Jésus, ils ne s'adressent pas à Dieu. Ah, ils sont superstitieux, oui. Ah, ils vont mettre des petites bougies dans les églises. Ah oui, quand la grand-mère, elle est malade. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Que c'est beau, chers amis, de voir un enfant. Et comme prêtre, je suis toujours bouleversé de voir un enfant qui a une relation personnelle avec Jésus, avec Marie. On se dit là, waouh, à la greffe, elle a prise. C'est magnifique. C'est source de beaucoup de joie. Faut vraiment aider. Alors merci à tous les catéchistes qui font le catéchisme en vue de cette relation personnelle, dans la prière de l'enfant avec Dieu. C'est pas le catéchisme pour raconter des jolies histoires. Il faut que la greffe prenne. Le deuxième concile du Vatican a restauré pour l'Église latine le catéchuménat à des adultes, distribué en plusieurs étapes. Aujourd'hui donc, dans tous les rites latins et orientaux, l'initiation chrétienne des adultes commence dès leur entrée en catéchuménat pour atteindre son point culminant dans une seule célébration des trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Dans les rites orientaux, l'initiation chrétienne des enfants commence au baptême, suivie immédiatement par la confirmation et l'Eucharistie, tandis que dans le rite romain, elle se poursuit durant des années de catéchèse, pour s'achever plus tard dans la confirmation et l'Eucharistie, sommet de leur initiation chrétienne. Il y a donc des différences entre les rites latins et orientaux. Bon, maintenant entrons dans le déroulement de la célébration du baptême. On commence par le parvis. On commence dehors. Vous savez pourquoi? Parce que justement, par le baptême, on entre dans le corps du Christ. On devient membre du corps du Christ, membre de l'Église, dont le bâtiment est l'illustration. Donc avant d'être membre, eh bien on n'est pas membre. Donc on commence dehors. Voilà, salutations des parents, parrain, marraine, la famille est là. Donc merci de jeter les chewing-gums d'ailleurs avant de rentrer dans l'église. Il y a une poubelle en général pas loin, hein? C'est bien. Puis de mettre le téléphone sur ne pas déranger. Voilà. Et puis il y a ce beau geste. Alors il y a quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Bon. Et que demandez-vous à l'Église pour votre enfant? Alors, le baptême, bon, on peut dire la foi. Parce que procure la foi? La vie éternelle. C'est magnifique cette version, parce que ça montre que les parents ont conscience de l'importance de ce qui est en train de se passer. Je veux pour mon enfant qu'il ait la foi. Que procure la foi? La vie éternelle. C'est magnifique. Que voulez-vous pour votre enfant? Ah ben... Voilà. Tout de suite, on se situe dans un regard d'en haut. Je veux que mon enfant ait la vie éternelle. Qu'ils vivent dès maintenant le début de la vie éternelle et que cette vie qui sera déposée en lui par le baptême, eh bien que ça pousse, pour que ça fleurisse et que ça porte beaucoup de fruits et que ça éclose au ciel pour toujours. Car l'enfant qui vient est destiné au ciel. Quand un enfant, quand un être humain est créé par Dieu ici-bas, il est destiné au ciel. Alors il y a ce beau geste du signe de la croix, je vous marque du signe du Christ Sauveur, la croix. Donc le prêtre ou le diacre pose ce magnifique geste sur le front de l'enfant. Et suivi par le geste fait par les parents, les parrains et marraines. Chers parents, j'espère que vous bénissez vos enfants chaque soir avant qu'ils ne dorment. C'est très important. Bénissez vos enfants. Priez avec vos enfants avant qu'ils ne se couchent. Bénissez-les. Un petit rituel. L'enfant, il a besoin de rites, c'est tout à fait normal. Donc j'espère que vous avez une croix, un petit crucifix, une icône, un chapelet, une médaille, non pas d'un signe astrologique, mais la médaille par exemple, la médaille miraculeuse de la rue du Bac, médaille de la Vierge Marie, bénie non pas par superstition, mais par foi. Et j'espère que vous priez le soir avec vos petits-enfants et que vous les bénissez chaque soir. Parce que vous, papa, vous, maman, vous êtes le relais de la bénédiction de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et de la bénédiction maternelle de la Vierge Marie. Vous êtes des relais de l'amour de Dieu pour vos enfants, les instruments. Bénissez vos enfants. Et même si la journée a été difficile et qu'ils ont fait quelques bêtises, terminez vos journées avec eux en les bénissant. Et faites ce geste habité de l'intérieur. Petite croix comme ça, pouf, 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 allez. Non, 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 non. Je te bénis parce que tu es un béni, mon enfant. Même si tu as fait des bêtises aujourd'hui, tu étais pénible. Tu sais ça, hein, c'était pas facile. Hein. Voilà, maman te pardonne. Si l'enfant peut demander pardon, c'est bien. Et ça se termine dans la réconciliation et dans la bénédiction. Ça se termine, il faut que les journées des enfants se terminent par un « je t'aime ». Parce qu'elle commence par un « je t'aime ». Quand ils se réveillent le matin, Dieu les regarde, Dieu les aime, Dieu les bénit. Alors avant qu'ils ferment les yeux, bénissez profondément, en posant ce geste de la croix sur leur front, en disant « mon enfant, papa t'aime, maman t'aime, c'est vrai, je t'aime, mais il y a quelqu'un qui t'aime encore plus que moi. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est Marie. Alors je vais te faire sur le front cette bénédiction du Seigneur. Et par cette bénédiction parentale, c'est le Seigneur lui-même qui va te bénir, mon enfant. Il va déposer, non seulement sur ton front, mais dans ton âme, son amour qui n'est que bénédiction. Mon enfant, Dieu ne punit pas. Dieu bénit. N'aie pas peur de Dieu, confie-toi à lui. On va confier ta nuit à ton ange gardien et on confie ta vie à celui qui est notre Père et Providence. Fais confiance à Jésus, mon enfant, toujours, au cœur même de tes journées, avec tes camarades, dans ce que tu vis de peut-être pas facile à l'école. Ah, c'est pas facile, hein. Il y a les bagarres, il y a les jalousies, il y a des mots, hein. Mais qualifiez non seulement vos moments avec vos enfants, mais en particulier le coucher, quand ils sont tout petits, par le signe de la croix. N'oublie pas. Par le geste du signe de la croix sur le front, c'est une manière très concrète de ne pas oublier. Souviens-toi, souviens-toi que tu es marqué. On le verra, on parlera du sceau, de l'empreinte indélébile que nous recevons au baptême. Souviens-toi que Dieu t'a marqué. Souviens-toi que Dieu t'aime. Souviens-toi, dans la Bible, vous savez, c'est faire mémoire, rendre présent. Faites-le, vous êtes des liturges, vous parents. Oui, vous êtes des liturges dans votre couple et vos familles. Prenez acte que vous êtes des liturges et que dans les petites liturgies familiales, vous avez votre rôle très important à jouer. Donc, souviens-toi que tu es aimé par la Sainte Trinité, mon enfant, Père, Fils et Saint-Esprit. Souviens-toi de la grâce du salut que tu as reçu en Jésus. Le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour toi. Ensuite, nous entrons dans l'église, on s'assoit pour écouter la parole de Dieu qui est proclamée. Nous en avons parlé tout à l'heure. La parole de Dieu, elle illumine L'annonce de la parole de Dieu illumine de la vérité révélée les candidats et l'assemblée et suscite la réponse de la foi inséparable du baptême. Ensuite, il y a une petite prédication en général qui est là pour prolonger et pour accompagner le Seigneur qui veut toucher les cœurs de tous ceux qui sont réunis dans l'Église. Et dont nous espérons qu'il ne soit pas complètement distrait. Il est mignon, hein? Ouais, et puis voilà. Il y a beaucoup de distractions, hein, au moment des célébrations du baptême. Beaucoup de joie aussi, bien sûr. Et le moment de la parole de Dieu. Ah. Dieu parle. On ne sait plus ce que c'est que la parole de Dieu. Oui, on lit un texte, quoi, hein? C'est Dieu qui parle aux gens qui sont là, ce jour-là, à ce moment-là. Dieu connaît les gens qui sont dans l'assemblée. Dieu connaît leur vie, ce qu'ils traversent, de joyeux, de douloureux. Il sait tout et Dieu veut parler à son peuple. Alors, il faut savoir disposer les choses pour que Dieu se fasse entendre et que les cœurs qui sont là, eh bien, puissent être... Enfin, que les personnes soient là, soient dans leur cœur, voilà. Et non pas dans leur tête ou en train de se dire c'est quand même sympa d'être là, vivement que ça finisse et que le curé finisse son truc, comme ça on pourra aller prendre l'apéro. Mais très important, ce moment de la proclamation de la parole de Dieu qui a une puissance phénoménale. Ensuite, avant le sacrement du baptême proprement dit, il y a dans le rituel, dans la célébration, des moments très importants. Il y a la prière d'exorcisme. N'ayons pas peur du mot. Quoi, ça veut dire que nos petits-enfants sont possédés par le diable? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et que les personnes adultes aussi, alors? Ça veut dire que, par cette prière d'exorcisme, on demande au Seigneur de dégager le démon, sa puissance, ses influences, ses tentations et ses infestations de tout ce qui traîne. Parce qu'on ne peut pas arriver au baptême, si vous voulez, en étant encore une fois mélangé. Je prends par exemple, pour un adulte, faire le pendule, là, par exemple. Ou aller voir des médiums, des voyants, hein? Et en même temps faire une démarche vers le baptême. Il faut choisir à un moment donné qui est ton père? Qui est ta providence? Est-ce que c'est Madame Irma? Est-ce que c'est le journal de l'horoscope? Ou est-ce que c'est Dieu ton père? Qui te mène? Qui guide ta vie? Donc il va faire bel et bien falloir pour le néophyte, pour le catéchumène en chemin, qui va devenir chrétien, il va bel et bien falloir mourir aux influences sataniques. Et s'il y a eu des pratiques qui étaient contre la volonté de Dieu, des péchés, s'il y a eu des choses de l'ordre des ténèbres avant le baptême, et c'est toujours le cas, évidemment, en tant que je parle pour un adulte, eh bien, la puissance de la prière de l'exorcisme, je peux vous garantir que ça le dégage, hein. Donc, c'est un moment important. Dans certains milieux, il peut y avoir des sorts, par exemple, qui sont jetés. Ben oui, ça existe. Que deviendra cet enfant? Bon. Et puis, il peut y avoir déjà, dans certaines familles, même à l'égard des tout petits, des espèces de totems, des espèces les enfants peuvent être voués à des divinités, à des. En fait, ce sont des esprits qui se cachent derrière ces pseudo-divinités, vous voyez? Donc, le baptême, c'est l'anéantissement de ces puissances. Donc, prière d'exorcisme. Ensuite, il y a l'huile des catéchumènes, l'imposition des mains. Un geste très beau. Et le catéchumène renonce explicitement à Satan. Bien sûr, si le catéchumène adulte a été bien préparé, non, s'il est bien préparé, on voit tout dans le détail. Notamment tout, s'il y a des trucs qui pèsent, des fardeaux, des voilà, dans un lien de confiance, bien sûr, avec l'accompagnateur, qu'il soit prêtre ou diacre, c'est le moment pour un catéchumène dans son parcours de faire, j'allais dire, de regarder toute sa vie dans la lumière du Christ, parce que de fait, il a été aimé depuis toute éternité, et en cheminant vers le baptême, en se préparant vers une vie nouvelle, faut tout regarder, je pense, hein. S'il y a eu, voilà, tout, dans la vie conjugale, dans la sexualité, dans, voilà, tout, 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 faut tout mettre en lumière. Et ne rien cacher. Rien. Parce que le baptême est d'une puissance de libération phénoménale. Et donc c'est vraiment le moment pour les catéchumènes de faire une méga retraite, si vous voulez, que ça dure 1 an, 2 ans, mais en tout cas de faire le net. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à travers un petit mot. Voilà, l'accueil de l'évangile entraînant une conversion. Ah oui, conversion, c'est pas. J'aimerais bien que ma vie s'améliore. Pas du tout ça. C'est que tout dans ta vie qui n'est pas du Christ, à partir du moment où tu vas plonger, où tu vas t'immerger dans l'eau baptismale, tu vas renoncer à tout ça. Voilà, si la préparation n'est pas bien faite, si vous voulez, voilà, elle n'est pas faite un peu en surface. Ben, les catéchumènes vont être tellement contents d'être de venir au jour de leur baptême. Et puis, on va les revoir, pas beaucoup, de temps en temps par amitié, on va les voir, et puis ils vont disparaître de la circulation. Non seulement disparaître de la circulation, mais ils ne vont pas prier, ils ne vont pas pratiquer. Et puis, voilà, on se demande quel fruit ils portent de leur baptême dans leur vie. Donc le moment, le temps du catéchuménat est un temps béni qu'on peut prendre vraiment comme un temps de grâce. Alors c'est bien sûr, c'est à deux voies, c'est-à-dire que celui qui se prépare et puis celui qui prépare aussi. Voilà. Mais ça peut être un vraiment temps magnifique. D'ailleurs, si vous êtes concerné et puis si vous avez vécu ça, n'hésitez pas à témoigner, hein. Tout à l'heure, quand je vous donnerai la parole, dans 5 minutes. Ah non, maintenant? Ah oui, maintenant, j'ai déjà dépassé. Ah oui, voilà, maintenant. Voilà, tiens, on va s'arrêter là. Et nous avons Marie-Pierre avec nous. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Père Mathieu, merci pour votre catéchèse. Alors, ce n'est pas un témoignage,
Oui.
j'aimerais que vous puissiez me donner une réponse si c'était possible. Voilà, c'est une de mes amies. Ils ont eu un petit garçon et quelques jours après la naissance, il a été baptisé. Et 3 mois après, ils ont eu un très grave accident. Et le gamin est resté handicapé, mentalement et physiquement. Donc, il n'a jamais reçu de catéchèse, ce gamin. Et donc là, dans ce cas-là, comment se passe justement ce catéchuménat dont vous parlez post-baptismal, puisque bon, il a eu juste le baptême, il ne sait pas vraiment parler, il ne dit que des monosyllabes, il ne comprend pas tout, et physiquement, il est pratiquement dans la terre.
Oui. Il s'appelle comment ce garçon ? Il s'appelle comment ce garçon ?
Il s'appelle David.
David, oui. Alors, au fait, ce qui est merveilleux, c'est que le cœur d'un être humain, le petit David est devenu le temple de la Trinité. Et donc, en amont et au-delà de son aspect, de la dimension psychique, mentale, physique, qui est délabrée, en fait, Dieu habite son cœur et Dieu travaille son cœur. Et donc, là, il peut se passer des merveilles. Et donc, Dieu peut instruire directement le cœur de l'homme, et notamment le cœur d'un enfant qui est pur. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe des choses. Et donc, il se pourrait tout à fait, et j'en suis persuadé personnellement, que entre le Seigneur et David, ça circule, ça discute, ça communique. Et donc, on verra au ciel les merveilles. Mais déjà, par la foi, nous pouvons dire cette chose en vérité, c'est que je suis persuadé que Jésus, en plus, voilà, il est si bon à l'égard de ceux qui souffrent, si bon à l'égard des enfants, qu'il doit se passer des choses dans son petit cœur, David, c'est sûr.
D'accord.
Donc, il doit être instruit.
Parce que la maman, bon, elle prie tous les jours pour on va dire, pour la foi de cet enfant, pour sa conversion, mais elle me dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire de plus ?
Ouais. Est-ce qu'elle prie avec lui ?
Elle a prié quelques fois, mais je ne sais pas si, elle m'a dit, je ne sais pas si vraiment il est en symbiose avec moi quand je prie.
Ouais.
Parce que il a des éclatements de rire, donc elle ne sait pas.
Oui, même si elle ne sait pas d'une manière perceptible, à mon avis, c'est bien de prier avec lui, de lui expliquer, de lui dire voilà.
Ça lui fait faire sa prière tous les soirs.
D'accord, très bien. Ouais.
Et donc elle me dit mais. Pendant qu'on fait la prière, elle lui fait faire le « Je vous salue », le « Notre Père ».
Très bien.
Mais des fois, elle fait, c'est comme un petit enfant, un petit nourrisson, il gazouille. Alors,
oui.
Elle me dit, je ne sais pas s'il participe vraiment.
Oui. Dans la foi, hein, c'est vécu dans la foi, mais c'est bien de persister. De maintenir la constance, c'est encore une fois ce qui se passe dans le cœur. C'est un peu, si vous voulez, comme les adolescents, vous leur parlez de l'amour de Dieu, ils regardent leurs chaussures, et puis ils vous répètent une semaine après ce que vous avez dit, alors qu'ils paraissaient complètement distraits. Oui. Donc, voilà. Merci Marie-Pierre.
Merci Père Mathieu, bonne journée.
À vous aussi, au revoir.
Merci, au revoir.
Et nous avons Gladys avec nous. Bonjour Gladys.
Bonjour Père Mathieu.
Oui.
C'est pour un témoignage.
Oui.
Pour dire que le jour de mon baptême, bon, j'avais 2 mois hein, j'étais petite.
Oui.
Et le Saint-Esprit a parlé à ma marraine.
Oui.
Ma marraine qui est en même temps ma tante.
Oui.
Alors ma marraine, elle était mariée depuis 5 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et le jour de mon baptême, après la cérémonie, elle est allée discuter avec le curé, et voilà, pour lui faire part de son chagrin, tout ça, de n'avoir pas compté. Et le curé lui a dit, madame, je vous conseille de faire une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Et je crois que ce jour-là, ma marraine, elle est rentrée et elle a fait ça. Alors, le premier enfant est arrivé la première année, et après, elle en a eu 7. Un enfant chaque année.
Wow.
Et il y a eu un espacement, elle en a eu encore 2, donc elle en a 9.
Ah bon.
Alors, quand le Saint-Esprit et la Vierge se mettent ensemble, voilà, c'est la grâce, c'est le bonheur.
Oui, tout à fait.
Et donc, 9 enfants en bonne santé jusqu'à maintenant, ils ont 50 et 60 ans, toujours en bonne santé, des caractères bien trempés. Et voilà, en bonne santé, caractère bien tranquille, des enfants, mais qui vouent une, comment dire, une dévotion à Marie, et, voilà. Et puis, voilà, je voulais témoigner de ça. Moi, j'avais 2 mois, mais c'est ma famille, et puis mes cousins, ils sont toujours, voilà, ils ont de l'admiration pour moi, parce que c'est, ça a le Saint-Esprit a débloqué quelque chose qui est ma marraine ce jour-là, et voilà. Je voulais témoigner de ça.
Merci beaucoup, Gladys. Voilà. Merci beaucoup.
Voilà. Merci.
Soyez bénis, nous rendons grâce à Dieu avec vous. Bonne journée, à bientôt.
Voilà. Bonne journée, à bientôt.
Au revoir. Alors, je vous retrouve demain pour la suite de la catéchèse. Et en attendant ces beaux moments, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.